Pas qui est Thalès, mais allons-y. Voilà, le YouTube aussi est lancé.
Eh bien, bonne soirée et merci pour l'achat de nous rejoindre.
Alors, c'est parti. Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, et on est parti ce soir pour parler d'un grand monsieur. Bon, évidemment, tous les rabbins qu'on évoque sont des grands personnages, mais là, ce soir, je suis perturbé déjà de rien que d'en parler. On va parler d'un personnage extraordinaire. Un personnage extraordinaire, je le dis chaque lundi soir, évidemment, parce que sinon je ne l'aurais pas choisi. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de quelqu'un qui va, pour moi, avoir une influence énorme dans ma vie personnellement. Je commence par la fin. Je commence par ce que j'aurais voulu vous dire en fin, mais je me dis que finalement, il n'y a pas mieux pour démarrer notre étude. Vous le savez, je n'ai pas grandi dans un milieu religieux. Je viens d'un milieu traditionnaliste, machin. Le contact avec les rabbins, c'était pas vraiment ma priorité, si vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, non seulement le contact avec les rabbins, c'était pas ma priorité, mais en plus, les rabbins que je connaissais, c'était les rabbins de ma ville. Il y en a un d'entre eux, c'était mon oncle. Donc, si tu veux, je n'avais pas la conscience de la grandeur du Rav et j'avais pas conscience non plus de ce que c'est que d'être en présence d'un géant. Et j'avoue que quand je suis arrivé en Israël et que j'ai commencé un petit peu à me rapprocher des géants, eh bien, j'ai commencé à m'en rendre compte. Et puis, tout d'un coup, est arrivé le moment où c'était le matin de mon mariage. Et le matin de mon mariage, eh bien, celui qui allait devenir mon chauffeur pendant ma journée de pré-mariage, celui qui était mon Sgan Mefaked, mon numéro 2 à l'armée, qui était déjà marié, eh bien, me dit, Ethan, j'ai réussi à t'arranger le truc. Ce matin, on va au Migvé et ensuite, je t'emmène chez le Rav Mordechai Eliyahu. Et donc, il avait réussi effectivement à m'organiser un truc parce que ça connaissait la secrétaire du bureau du Rav, machin. Et donc, eh bien, je me retrouve le matin même de mon mariage, après avoir été au Migvé, eh bien, je me retrouve pour la première fois de ma vie devant le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion, et pour la première fois de ma vie devant un rabbin qui est extérieur à ma yeshiva. Et je vais rentrer dans le bureau du Rav Mordechai Eliyahu. Je suis complètement pétrifié juste avant de rentrer dans le bureau. Et encore plus quand on me dit, bon, t'oublies pas, il faut lui embrasser la main dès que tu rentres. Non, imaginez-vous, je suis Ashkenaz. Ashkenaz, à ce niveau-là, voire même Archinaz, et j'ai aucune conscience de ces choses-là. Et je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Je sais juste une chose. Je suis censé me marier dans quelques heures. Je vais voir le grand rabbin d'Israël. Et je ne sais absolument pas quoi lui dire. Mais les amis, je suis rentré dans le bureau. Et il a vu, j'étais effectivement pétrifié. Je ne savais pas, j'ai bugué. J'ai bugué. Et il avait un grand sourire. Et il m'a dit... אתה מתחתן היום? כן. אמרתי, וזה פעם ראשונה שאתה בא לראות אותי. כן. אמרתי, ואתה אשכנזי?
אמרתי,
oui, ah bah oui. Il dit, tu te maries aujourd'hui? Alors je dis, oui. Pour ça, vous avez compris. Après, il me dit, c'est la première fois que tu viens me voir. Et je dis, oui. Il me dit, tu es Ashkenaz aussi? Il dit, ça se voit. Et là, il me prend la main et il me dit, tu sais, en général, chez nous, c'est les élèves qui viennent embrasser la main du Rav. Aval, mais Khatan, domel le melech. Mais un Khatan, c'est comme un roi. Et un roi, on se doit de lui faire du kavod. Et donc, c'est lui qui a pris ma main et qui m'a embrassé la main. Au moment où il m'a embrassé la main, j'ai repris toute ma tête, je me suis effondré en larmes et je lui ai embrassé 12 fois la main. Et tu sais, c'était des larmes d'une simcha shel otzma. C'était une joie de force énorme, une chaleur qui m'entourait. Je me suis dit, ben voilà, ça c'est la meilleure bracha qu'on pouvait jamais. Voilà, j'ai, c'est bon, c'est gagné, je peux y aller.
Tu nous as révélé un grand sod. Hein.
Et c'est un grand, grand sod. C'était un très, très, très grand moment. Et de là, ben, je suis parti à Makhoupa. Alors, voilà, c'était pour vous faire rentrer dans l'ambiance du personnage. Alors, Arav Mordechai Eliyahu. Arav Mordechai Eliyahu, tout d'abord, faut savoir qu'il est lui-même le fils du Rav Suliman Eliyahu. Et je voudrais commencer ma première partie. Alors, vous pouvez voir ma feuille de préparation du cours. Hein. Comme ça, vous voyez que je n'invente pas les choses, je prépare lorsque je vais vous dire des choses. Mais là, j'ai préparé un cours en 14 points. C'est-à-dire, mon premier point, c'est ce qu'on va appeler « Atsionut me'abait », le sionisme depuis la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le Rav Mordechai Eliyahu va naître à Jérusalem. Mais pourquoi il naît à Jérusalem, d'ailleurs dans la vieille ville? Parce que son père, Arav Suliman Eliyahu, est né à Bagdad. Il est un des grands rabbanim de Bagdad. Mais il va arriver en Israël, Be'ora'ato, sous l'ordre du Chacham Yosef Raïm du Ben Ishraï. C'est-à-dire que le Rav Mordechai Eliyahu va puiser son sionisme du fait que son père, le Ben Ishraï, lui a dit « Ta place n'est pas à Bagdad, ta place est à Jérusalem. » Lorsque le Rav Suliman va demander au Ben Ishraï « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ma place est à Jérusalem ?» Le Ben Ishraï lui répond « Car ton fils sera un grand d'Israël. » C'est-à-dire que la place du Rabbi Suliman n'était pas sa place à lui, mais était le fait de promouvoir la place de ce fils qui allait naître, qui allait s'appeler Arav Mordechai Eliyahu, ou comme disent les Sfaradim, Aharam Mordechai. J'ai, depuis le corona, vous savez, le corona, c'est soit négatif, soit positif, soit t'as envie de choisir, tu regardes comme tu veux. Une des choses très positives du corona, c'est que ma communauté dans laquelle je suis le rabbin à Jérusalem a fondamentalement, enfin, pas fondamentalement, mais beaucoup changé. Beaucoup changé, et ne serait-ce qu'en personnalité. Il y a plein de gens qui venaient de loin et qui ben, préfèrent prier plus près de chez eux, machin, à cause du corona. Et puis, à l'inverse, il y a plein de gens qui étaient dans le quartier où il y avait ma synagogue, qui ne savaient même pas qu'il y avait une synagogue, parce qu'on priait à l'intérieur des murs, et qui, quand ils nous ont vus prier dehors, ils ont commencé à venir. Et donc, eh bien, j'ai pu découvrir énormément de gens qui sont maintenant des piliers depuis un an de la communauté. Et parmi eux, eh bien, j'ai la chance tous les Shabbats de pouvoir discuter avec un homme qui a été un des élèves très très proches du Rav Mordechai Eliyahu. Et lui, il ne l'appelle pas Arav Eliyahu, mais il l'appelle Chacham Mordechai. C'est vraiment la Shita de Chachmé Bavel. Donc le Rav Mordechai Eliyahu va naître en 1929 à Jérusalem. Eh oui, va te coucher, bien sûr. Bien sûr. Eh oui, on a tous les mêmes problèmes, c'est ça qui fait plaisir. Je me sens beaucoup moins seul grâce à ton va te coucher. Ça me fait très plaisir, sache-le vraiment. Bekitzor, Bekitzor, le Rav Mordechai Eliyahu donc va naître en 1929 à Jérusalem. Et j'ai dit, son sionisme, il le tient des bases même du fait d'être, d'être tout simplement... Attendez, je vais faire quelque chose parce qu'il faut que je mette ma prise de l'ordinateur. Bon, alors, advienne que pourra. Peut-être que je vais faire une grosse erreur là maintenant. Ben voilà, je savais que ça allait venir. Et bien voilà, c'était évident. Hop là, on va prendre celle-là. Je ne sais pas ce que je viens d'éteindre, mais ce n'est pas grave. Yallah. Yofi. Bekitzour, donc... Ah ouais, j'ai bien compris. Bon, tant pis pour moi. Attends, je suis désolé, je suis obligé de... Voilà, hop là. Hop là. Top, c'est-à-dire, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, comme je le disais, Arav Mordechai Eliyahu, son sionisme, il le tient de la maison Mamash. Il est né à Jérusalem, il ne l'a pas étudié dans les livres, mais sa famille est venue parce que c'était là qu'était leur place. Le Rav Mordechai Eliyahu avait l'habitude de raconter une histoire, toujours avec le sourire. On va beaucoup parler de français ce soir, je ne sais pas pourquoi le Rav Mordechai Eliyahu avait tellement un contact particulier avec les Français, mais on va beaucoup parler de français. Bekitsour, il y a un homme, alors que le Rav Mordechai Eliyahu est Rishon Letzion, donc il est Rishon Letzion entre les années 1983 à 1993, on y reviendra, et durant cette période-là, eh bien, il habite à Kiryat Moshe, et, enfin, dans la limite entre Kiryat Moshe et Givat Shaul, et là-bas, dans le bâtiment où il habite, va arriver un jeune couple. Un jeune couple de Olim Hadashim d'Israël. Enfin, de France, qui arrive en Israël. Olim Hadashim de France, qui arrive en Israël. La vérité, c'est que c'est lui qui arrive de France là maintenant. Et il rencontre sa femme 2 mois à peine après être arrivé en Israël. Et ils vont se marier ensemble. Il s'appelle Shlomo Ben Shushan. Et Shlomo Ben Shushan, c'est un juif sympathique, tout va bien. Et lorsqu'il vient d'emménager dans l'immeuble, il est en fait le voisin de palier du Rav Eliyahu. Mais il ne sait absolument pas qui est le Rav Mordechai Eliyahu. Et donc, le jour où il emménage, le Rav Eliyahu toque à sa porte avec des gâteaux et du café et il veut lui souhaiter la bienvenue. Et il lui dit, je vous dérange peut-être? Et le jeune Khatan lui dit, bah écoute, j'étais en train justement de danser avec ma femme pour dire merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir fait venir en Israël, de m'avoir fait rencontrer ma femme. Franchement, je suis plein de joie là maintenant. Et il dit à ce vieil homme qui est en face de lui, 70 ans à peu près, il lui dit, est-ce que vous voudriez vous joindre à moi pour une petite danse en remerciement à Dieu? Il dit, bah évidemment, évidemment. Et donc, ils se mettent à faire un petit entre-deux. Et sa femme qui est en train d'applaudir à côté. Et voilà, il est content. Il ne sait pas qui est en face de lui. Mais le Rav Mordechai Eliyahu racontera souvent cette histoire en disant que dans les yeux de ce jeune Shlomo, eh bien, il y avait tout l'amour pour Eretz Israël qu'on pouvait apprendre dans tous les livres qu'il y avait dans le Beit HaMidrash. Bon, évidemment, l'histoire, elle ne raconte pas. Mais le Rav Zaafrani, qui pendant 22 ans, 23 ans, sera le secrétaire particulier du Rav Eliyahu, eh bien, lui racontera la fin de l'histoire. C'est qu'un jour, il raccompagnera, des mois plus tard, il raccompagnera le Rav Eliyahu chez lui, un soir, à 2h du matin. Un peu de bruit devant la porte, Shlomo entre-ouvre la porte pour voir qu'est-ce qui se passe à 2h du matin devant sa porte, et il voit son voisin Mordechai rentrer avec la tenue du Rishon Letzion, et il se dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Et le lendemain matin, il va aller regarder un petit peu partout qui est le grand rabbin d'Israël, et il va tout d'un coup se rendre compte qu'il est le voisin de palier du Rishon Letzion. Ah ben, c'est Stam Sipour qui nous montre que l'attachement à Israël du Rav Mordechai Eliyahu, et on verra tout au long de notre étude à quel point elle était évidente, elle était naturelle. C'était un attachement profond et naturel du simple fait que, ben, un juif, il est attaché à Eretz Israël, Nekuda. D'ailleurs, il dira très souvent, après, il sera encore plus virulent sur l'Aliyah pour dire il faut venir, après sa Keuna, c'est-à-dire une fois qu'il sera plus officiellement le Rishon Letzion, et on l'entendra très souvent dire la même phrase. Mais enfin, il faut que tous les juifs viennent en Israël. Et ceux qui peuvent pas venir en Israël, eh bien, qu'ils achètent du vin d'Israël, qu'ils achètent des fruits d'Israël, qu'ils viennent passer les vacances en Israël quand ils peuvent. Mais Kitsour, qu'ils aient quelque chose qui les rattache à Eretz Israël. Et c'est ce qui nous amène à la première histoire. Alors, on va raconter plein d'histoires, évidemment, ce soir, mais à cette histoire où, en tant que Rishon Letzion, bon, vous savez, il va voyager énormément dans le monde. Et à un moment donné, il va arriver en Espagne. Et en Espagne, eh bien, il se fera recevoir par le ministre des Affaires étrangères espagnol de l'époque, j'ai plus le nom, et il y aura évidemment un grand repas qui sera organisé, la communauté juive, machin, cachère, ce que tu veux. Et à un moment donné, le ministre des Affaires étrangères espagnol demande au Rav Eliyahu, est-ce que vous, les juifs, vous avez le droit de manger des fruits pas cachères? Alors le Rav Eliyahu lui répond, il n'y a pas de fruits pas cachères. Les fruits sont cachères, s'ils ont été cueillis plus de 3 ans après que l'arbre a été planté, ils sont cachères n'importe où. Il dit, ah bon, alors je peux vous faire goûter des olives? Je dis, bah, évidemment, évidemment, avec plaisir. Et donc, il leur amène des olives, un bocal, un pot d'eau comme ça, de bien présenté, machin, avec des olives. Et il dit, vous devez goûter nos olives. Nous sommes les producteurs d'olives les plus goûteuses du monde. Nous nous enorgueillons partout dans le monde. Nos olives sont mouamouamouama. Et donc, on amène des olives. Tout le monde goûte les olives. Elles sont effectivement très bonnes. Et le Rav Eliyahu dit, elles sont très bonnes, ces olives. Et là, il continue. Et il parle, et il dit comment l'Espagne, elle est géniale, et comment l'Espagne, elle est géniale, et comment l'Espagne, elle est géniale. Attends, un pays qui produit des olives comme ça ne peut être que génial. Et le Rav Eliyahu, il dit, il y a un truc qui cloche. Et lorsqu'il a dit la phrase qu'il ne fallait pas dire, il dit, eh ben, hey, c'est pas chez vous qu'on trouverait des olives comme ça. Rav Eliyahu kam, et il a dit, ça, c'est pas possible. Demandez tout de suite, sinon j'arrête de manger. Demandez tout de suite, je veux voir le bocal. Je veux pas la présentation, je veux voir d'où viennent ces olives. Bah, ok, on va faire venir. Tu vois pas qu'ils ont fait venir les bocaux où il y avait marqué Kibbutz Glilot? C'était des olives d'Eretz Israël, oui, madame. Et il dit, bah oui, bah évidemment, des olives aussi bonnes. Ça ne pouvait pas venir d'ailleurs que de chez nous. Ze achibour d'Eretz Israël qu'avait le Rav Mordechai Eliyahu. Rav Eliyahu, au-delà de son amour pour Eretz Israël, c'était un amour dès son plus jeune âge qu'il reçoit de ses parents de Gmilut Hassadim. Gmilut Hassadim, il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans le judaïsme. Ça ne veut pas dire simplement faire du chesed, mais c'est rendre le chesed qu'on a reçu également. Rendre le chesed qu'on a reçu. Vous savez, le Rav Eliyahu, à ses 11 ans, va devenir orphelin de son père. Son père va mourir lorsqu'il aura 11 ans et il devra à ce moment-là commencer à aller financer sa famille. Il doit participer avec son grand frère eh bien, à aller vendre des grains de houmous au chouk pour amener un petit peu d'argent à la famille. Très vite, eh bien, on va le remarquer. Un homme va le remarquer et va le prendre sous son aile et va lui acheter tous les jours la quantité de houmous qu'il aurait vendu pour qu'il puisse aller commencer à étudier à la yeshiva de Porat Yosef dans la vieille ville de Jérusalem. Seulement, dans cette yeshiva, c'est bien, il a réussi à pouvoir y aller, mais c'est pas que quand il rentre à la maison, eh bien, il y a un bon repas qui l'attend. Très souvent, il ne mange pas. Il ne mange pas parce qu'il n'y a rien à manger à la maison. Imaginez-vous quelle a été la surprise, mais vraiment, des années plus tard. Mais quand je te dis des années plus tard, il était déjà plus Rishon LeZion. Donc ça veut dire qu'on est au bord de l'an 2000. Au bord de l'an 2000, imaginez-vous la surprise des 14 personnes qui sont réunies au Har HaMenuchot à Jérusalem. J'ai plus la date exacte, mais on est proche des années 2000. Il y a 14 personnes qui sont en train de faire l'éloge funèbre d'un Yehoudi Pashut, d'un Yehoudi Hamoud Tzadik Pashut, Rabbi Shlomo Dawan. Alors, ça fait beaucoup de Shlomo déjà ce soir, c'est cadeau pour Eli. Donc, Rabbi Shlomo Dawan, personne ne l'appelle Rabbi, tout le monde l'appelle Shlomo. Bien sûr. Il y a 14 personnes qui sont ses enfants et ses petits-enfants qui habitent encore à Jérusalem, qui sont réunis pour l'éloge funèbre de Shlomo Dawan. C'est un témani que personne ne connaît parce que toute sa vie, il a été tsanoua meod meod. Est-ce que vous pouvez imaginer la surprise lorsque, en plein milieu des espédim du petit-fils, se pointe à Rishon LeZion, à Rav Mordechai Eliyahu? Mais pourquoi? Pourquoi qui que quoi? Et tout le monde se demande, est-ce que papy, il avait des contacts avec le grand rabbinat d'Israël? Il ne dit pas du tout. Et là, le Rav Mordechai Eliyahu, il dit, j'ai aussi envie de faire des espédim. Il dit, mais comment? Il dit, si je suis devant vous aujourd'hui, en tant que Rishon LeZion, c'est grâce au Chacham Agadol Vanechbad Rabbi Shlomo. Il dit, quoi? Mais notre grand-père, il connaissait, il était religieux, tu vois, mais c'est pas... Et il raconte que un jour qu'il termine ses études de la journée à Yeshivat Porat Yosef, il a 12 ans, il est avec sa chavruta et le ventre gronde tellement fort qu'on l'entend au-delà de leur discussion à la sortie de la Yeshiva. Juste en face de la Yeshiva, il y a Shlomo. Shlomo Darwan qui vend des falafels. Et il s'approche du petit Mordechai et il lui dit: je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Il me reste des manottes falafel que je n'ai pas vendues aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de les jeter à la poubelle. Est-ce que je peux. Voilà, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait vouloir en profiter? Il n'ose pas dire que lui, il veut, alors il dit que c'est pour sa chavruta. Donc il emmène une mana à sa chavruta, il la mange tous les deux. Et il lui dit: non, mais tu n'as pas compris. Je veux pouvoir donner toutes les manottes. Et donc, il va donner à tous les enfants du Chiour, qui, pour la plupart, n'avaient pas beaucoup à manger non plus, des manottes. Veshlomo Dawan. Depuis ce jour, et ce, jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études à Porat Yosef, eh bien, tous les jours, va garder exprès des manottes pour le petit Mordechai et ses amis. Et le Rav Mordechai Eliyahu dira: si j'ai pu commencer mon étude de la Torah, c'est grâce à cet homme extraordinaire qui m'a nourri pendant mes premières années d'études. Et je n'ai pu me concentrer sur mon étude que grâce à ces falafels. Lorsque j'ai voulu lui dire merci la première fois, il m'a dit: chez nous, les Témanim, on ne dit pas merci. On dit Yavducha Amim. Et il raconte que depuis ce jour-là, lorsqu'il est devenu Dayan, et ensuite grand rabbin d'Israël, à chaque fête, à chaque Shabbat, il faisait envoyer une bouteille de vin, des matzot que lui-même avait fait. Après Chatzot Hayom, Lirvot Raga Pesach, il faisait parvenir ses matzot à Shlomo Dawan pendant toute sa vie. C'est lui qu'il faisait chaque année. Il cherchait le plus beau étrog et le plus beau loulav. Il envoyait des milliers, le Rav Eliyahu. Mais le plus beau, il l'amenait à Shlomo Dawan. Et quand il est arrivé sur son kever, il lui a dit: comme tu m'as appris tout simplement, Yavducha Amim. Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim, rendre au centuple le bien qu'on a fait à autrui. Et pourtant, on aurait pu ne jamais entendre parler du Rav Mordechai Eliyahu. On n'aurait pu jamais en entendre parler parce que lorsqu'il a 21 ans, il décide de prendre part à une action. Une action qui va l'emmener en prison pendant 10 mois. Quoi, vous imaginez, le Rav Mordechai Eliyahu, il n'y a pas plus Ohev Israël, qu'est-ce qu'il va aller faire en Mahasar pendant 10 mois? Eh bien, va se créer en 1950 une organisation qui sort de la Yeshiva de Porat Yosef, qui va s'appeler Brit Hakanaim. Brit Hakanaim. Alors, comprenez-moi bien, eux, les jeunes de l'organisation, ne se sont jamais appelés Brit Hakanaim. C'est le nom que leur a donné les médias israéliens. Le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai, il dit que mon père, il a souvent parlé de cette action-là. Il a dit, c'était pas Brit Hakanaim, c'est Brit Ohavim. C'était quoi l'idée? Eh bien, c'était une organisation qui voulait, d'abord qui voyait dans la création d'État d'Israël 2 ans plus tôt un miracle extraordinaire. Et donc, il voulait donner un aspect Torah à cet État d'Israël fraîchement créé. Et donc, ils se sont mis à mettre en place une série d'actions pour imposer la halakha au sein de la Knesset, au sein du peuple juif. Ils ont même été jusqu'à envoyer une grenade lacrymogène dans la Knesset pour leur faire prendre conscience que les nouvelles lois qui étaient votées ne pouvaient pas être des lois basées sur le mandat britannique, mais il fallait que ce soit les lois de la Torah. Ils ont été tous arrêtés et ont été condamnés à au maximum 10 mois de Mahasar. Finalement, le Rav Eliyahu va être libéré après 4 mois. Mais vous imaginez qu'avec un pédigré comme ça, on aurait pu l'oublier et ne jamais lui donner de fonction. Mais il dira, lorsqu'il sort du Mahasar, il dira, il est évident que notre volonté de rapprocher l'âme Israël à la Torah était la bonne. Mais le chemin que nous avons emprunté était complètement erroné. Car nous ne pouvons pas obliger le peuple juif à vouloir suivre la Torah. Il est au contraire évident maintenant que nous devons aimer le peuple juif. Et s'il veut nous aimer aussi, c'est très bien. Et s'il veut aimer la Torah, c'est encore mieux. Mais nous ne devons être que Ahava pour Am Israël. Et donc, parce qu'il a reconnu son erreur, eh bien, au contraire, les portes de la grandeur du Rav Eliyahu vont s'ouvrir de manière complète. Deux ans plus tard, en 1952, il fait une rencontre. Une rencontre qui va énormément influer sa vie, puisque 2 ans plus tard, alors qu'il est à Jérusalem, il entend dire qu'il y a un nouvel arrivé à Jérusalem. Un nouvel arrivé à Katamon, qui donne des cours de Torah, mais d'une Torah d'une profondeur incroyable. C'est une profondeur, c'est des cours de Parashat HaShavua le Shabbat, et ça part dans des dimensions incroyables. Et donc il dit, on doit aller voir de nous-mêmes. Et donc, Mordechai Eliyahu, le jeune, avec son grand frère, décide d'aller chez ce nouveau Rav qui donne des shiurim. Ce Rav, vous le connaissez évidemment tous, puisqu'ils arrivent chez Rabbi Israël Abouchatzira, à Baba Salé. Et ça sera la première rencontre avec le Baba Salé. Et tout de suite, ils sont enchantés par le shiur, et à la fin du cours, eh bien, c'est une histoire très connue, la première rencontre entre Baba Salé et le Rav Mordechai Eliyahu, ils ont plus ou moins le même âge. Baba Salé est un petit peu plus âgé que lui, mais à la fin du shiur, alors que lui et son frère viennent eh bien, pour saluer le Rav et lui souhaiter Shabbat Shalom, le Baba Salé regarde le frère du Rav Eliyahu, lui dit « Ata Shabbat Shalom » Ve'ata, il regarde le Rav Eliyahu, donc il dit à son frère, toi, Shabbat Shalom, mais toi, tu restes avec moi. Zéo, toi, Shabbat Shalom, et toi, tu restes là. Et ils vont rester ensemble pendant des heures durant, et ça va être le début d'une c'est même pas une amitié, c'est d'une fusion entre Abba Basale et Rav Mordechai Eliyahu. Vous allez me dire, mais il a besoin de lui, pourquoi ? Si c'est le Rav Eliyahu, il a besoin de Baba Salé pour lui apprendre des choses. Mais si c'est un Baba Salé, pourquoi il a besoin du jeune Rav Eliyahu ? Eh bien, il a besoin de lui pour une raison très simple. Un jour, le Rav Eliyahu viendra rendre visite à Baba Salé, à Netivot. Il sera déjà à Netivot. Et à ce moment-là, quand il arrive, les gens ne le connaissent pas encore. Il n'est pas encore Rav Mordechai Eliyahu. Donc le chômeur, celui qui fait rentrer les gens, ne le connaît pas, ne le reconnaît pas, et lui dit, ce soir, le Rav ne reçoit pas. Donc, désolé. Alors, Rav Mordechai Eliyahu dit, bon, c'est pas grave, dites-lui simplement que Mordechai Eliyahu était venu le voir. Il dit, très bien. À ce moment-là, la femme de Baba Salé, elle entend ça, elle dit, ah, Mordechai, rentre! Alors, il rentre. Il le fait rentrer, mais là, saute, là. Il dit, fais quelque chose pour mon mari, fais quelque chose. Ça fait 5 jours, il ne mange pas. Rentre et persuade-le de manger. Rav Mordechai Eliyahu, il rentre. Et Baba Salé lui raconte, mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 5 jours que je t'attends. Combien il faut t'attendre? Il dit, mais quoi? Il dit, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Ça fait 5 jours que je suis en tefila. Yomam Valaila. Yesh Gzerot la Israël, j'arrive pas à les enlever. Je n'arrive pas à prier comme toi, tu sais prier. Aziala, t'es pas l'aile. Et il raconte que pendant 1h15, ils sont mis dans la chambre tous les deux, ils ont fermé à double tour, ils ont prié. Au bout 1h15, Baba Salé est sorti de la chambre, il a dit à sa femme, Seouda Keyad Amelech. Zéou, il te bat l'ouk en la Gzerot. Ça y est, les décrets ont été annulés. Le Baba Salé dira du Rav Mordechai Eliyahu qu'il n'y a personne qu'il savait prier avec autant de clairvoyance et de pureté que lui. Koach HaTfila, la force de la Tfila du Rav Mordechai Eliyahu. Évidemment, si on parle du Baba Salé et du Rav Mordechai Eliyahu, on ne peut pas ne pas évoquer, d'abord c'était la Hiloula de Baba Salé hier, Et donc, on ne peut pas ne pas évoquer, évidemment, la fameuse histoire de la montre. Ah oui, évidemment, évidemment. Cette montre qui avait été donnée par le père de Baba Salé à Baba Salé, que Baba Salé a donnée au Rav Mordechai Eliyahu, montre dans laquelle il lui a dit « Sache que lorsque les aiguilles montreront midi, ça sera le moment où le Mashiach va se dévoiler. » Rav Mordechai Eliyahu, il raconte toujours cette histoire que quand il a reçu la montre, ça marquait 3 heures. À la veille du décès du Rav Mordechai Eliyahu, en 2010, il était midi moins 12. Mazé Omer, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'en sais rien. Mais c'est une réalité. Alors au final, eh bien, il va falloir attendre que le Rav Mordechai Eliyahu soit très vieux, puisqu'il devra attendre l'âge des 31 ans pour commencer à avoir une influence sur le peuple juif. C'est-à-dire qu'à 31 ans, il devient le plus jeune Dayan de l'État d'Israël. Il est Dayan et il est responsable du Bet Adin Agadol de Be'er Sheva. Et c'est là qu'il va commencer sa Pehilut Tziburit. Il est extrêmement proche du Rav Yitzhak Nissim, le grand rabbin d'Israël Sepharad, qu'on a déjà évoqué dans un de nos cours. Et donc, eh bien, il devient, plus, pas son Yad Yeminan, mais quand il y a quelque chose à faire d'important, à Rav Nissim, il sait, on va aller voir Chacham Mordechai. Résultat des courses, eh bien, en 1960, il a donc 31 ans, eh bien, ça y est, le Rav Nissim lui donne une mission. Une mission incroyable qui va être tout simplement de faire venir les ossements de Maran Achida, du Rav Chaim Yosef David Azoulay, de Livorne en Italie, en Israël, à Jérusalem. Personne n'a accepté le rôle. C'est-à-dire que Rav Nissim l'a demandé à d'autres rabbanim de Jérusalem de le faire, personne n'a accepté. Rav Mordechai Eliyahu, il a accepté. Maintenant, moi je suis Ashkenaz, vous le savez, hein, vous me connaissez. Mais en malasot, quand tu parles avec, tu entends le Rav Zafrani qui raconte l'histoire, il était à côté du Rav Eliyahu toutes ces années. Il dit, j'étais là-bas. Moi, je l'ai vu. Que lorsqu'ils ont pris, ils ont fait descendre le Aaron, le cercueil du Chida, de l'avion, il s'est mis à trembler dans tous les sens. Le cercueil, tout seul, comme un grand. Jusqu'à ce que le Rav Eliyahu, il arrive, et il met sa main sur le cercueil et il dit « Kol apeulot, tout ce qu'on va faire là maintenant, c'est selon tes enseignements à toi de comment on doit s'occuper d'un mort. On ne fait pas ça pour te faire du tort, on fait ça uniquement pour te faire du bien et te ramener à Yerushalayim comme tu l'avais demandé. » Et à ce moment-là, le cercueil s'est arrêté de bouger. « Tu me crois, tu ne me crois pas, m'en fiche. M'en fiche, j'ai envie de te dire. » Mais là, voilà l'histoire. En 1960, le Rav Mordechai Eliyahu devient Dayan Beisrael et commence à être Posek Halakha. Posek Halakha, et il s'oppose fermement à un concept qui était en train d'être en vogue dans la société israélienne rabbinique, qu'il y aurait des rabbins qui sont Makelim et des rabbins qui sont Machmirim. Genre, il y a des rabbins qui sont plus de style à être permissifs et d'autres qui sont plus de style à être plus strict. Rav Eliyahu dit, ça n'existe pas un rabbin qui est makel ou un rabbin qui est mahmir. On est makel quand on peut et on est mahmir quand on peut pas. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Mais la grande différence avec le Rav Eliyahu, c'est que ça va être un des premiers rabbins qui va mêler dans la psikata halakha, et ce pour tout le monde, la profondeur de la Kabbalah dans la psikata halakha. Alors que c'était jusqu'à présent deux mondes complètement différents, eh bien le Rav Eliyahu fait rentrer la profondeur de la Kabbalah dans la halakha. Alors là, j'ai envie de vous dire, comment on sait que le Rav Eliyahu c'était un géant de la halakha? Bah, comment on sait? C'est pas compliqué. Tu regardes tous les psakim du Rav Eliyahu, il y a au moins une dizaine de livres de psakim, en plus une dizaine de livres de shoutim qu'il a répondu à des questions-réponses. La grandeur de la halakha, il a étudié chez le Chazon Ish. La halakha. Donc, au niveau de la halakha, personne ne se pose la question Comment on sait que c'était un géant de halakha? Mais l'année dernière, juste avant le corona, j'ai eu la chance, pendant une semaine, cinq jours, d'arpenter les rues de Paris aux côtés du Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu. On a été envoyés, on était trois rabbins francophones qui accompagnaient le Rav Eliyahu dans une tournée à Paris pour l'occasion du Shabbat Lech Lecha l'année dernière. Donc on était juste avant le corona, imaginez-vous, c'était dans un autre Gilgoul, dans une vie avant le corona. Bekitsour, j'ai posé, laisse tomber, j'ai dû poser au moins une centaine de questions, mais genre, tu sais, des questions que tu poses pas sur Internet. Sur tous des sujets possibles et imaginables, j'avais le Rav Shmuel Eliyahu à côté de moi, le matin au petit-déj, le soir au dîner, il mange pas. Laisse tomber, il mange pas. Alors ça, je savais pas, j'ai pas compris au début. J'ai pas compris, j'ai demandé, j'ai osé demander. J'ai dit, Rav, Lama Rav lo ochel. Dis donc, Minage Kashrut, Abba, je tiens de papa. Tous les soirs, alors qu'il était invité partout pour des séoudotes de malades, chez les rabbins de la communauté juive de France, tous les hercherim que tu veux, il se baladait avec des manot ramot de chez Osem. Il ne mangeait pas en Chutz La'aretz. Rak à Ochel chez l'Eretz Israël. C'est un autre concept. Et donc, je lui ai demandé à un moment donné, dans la voiture, je lui ai dit, Arav, j'arrive sur le Sheila. Alors, je me rappelle très bien parce qu'il m'a dit, Kem, Zera Kashela, Arbaim Veshtaim Shelcha, Astichal. Il m'a dit, oui, ce n'est que la 42e question que tu me poses, alors vas-y. Alors, je lui ai dit, comme je vous ai dit, que Maran Arav Aya Gadol Be'alacha, c'est-à-dire, Kulam Yodim, Kulam Charlirot Bechol Makom. Aval, Kulam Gam Yodim, Shoukdola Mekoubalim, Minain. Tout le monde sait aussi que c'était le plus grand des kabbalistes. Torah ta Kabbalah chez lui, pouf. Mais je lui ai dit, mais d'où on sait? Il m'a dit, Atalom Evin, tu ne comprends pas. Moi, je suis son fils. J'étais allé avec lui à la maison et tout. De notre vie, on ne l'a jamais vu ouvrir un livre de Kabbalah. Rak alacha, 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 alacha. Et pourtant, Oya Gdol Amekoubalim. D'où ça vient? Sa Kabbalah, personne ne sait d'où, qui, que, quoi, comment. Avalwe Akdol Amekoubalim. Les amis, en 1994, si je parle de ça, hein, je parle de cette dimension de Kabbalah qui doit être dans la vie. La Kabbalah du Rav Eliyahu, ce n'était pas une étude ésotérique. C'était arriver à mettre en pratique dans le quotidien les kavanotes les plus élevées, les pensées, les intentions les plus élevées. Parce que pour lui, ses intentions des mondes supérieurs devaient pouvoir trouver, eh bien, une signification ici. Et c'est ce que va raconter l'un des premiers restaurants kachers de Tel Aviv. Un des premiers restaurants qui va devenir restaurant kasher à Tel Aviv, eh bien, va devenir à cause, ou grâce, évidemment, au Rav Mordechai Eliyahu. À ce moment-là, il n'est pas encore Rav à Jérusalem, il est encore à Be'er Sheva, il est donc encore jeune, il va à peine sur ses 36, 37 ans, un truc comme ça, et il vient d'accepter de donner une série de cours à Tel Aviv. Donc, il a pris le bus le matin de Be'er Sheva à Tel Aviv, et il a commencé, il a enchaîné une série de cours. Il est 4-5 heures de l'après-midi et il a terminé. Et avant de rentrer à Be'er Sheva, il se sent faible parce qu'il n'a pas eu le temps de manger le matin. Il est parti directement après la tefila, il est parti directement. Il n'a rien mangé et il a parlé toute la journée. Il se sent un peu faible. Et donc, il commence à arpenter les rues de Tel Aviv en cherchant un endroit où il pourra manger kasher. Il n'y a pas, on est dans les années 70, il n'y a pas. Ou peut-être juste avant 70, je ne me rappelle plus. Il ne trouve pas. Et donc, à un moment donné, il rentre dans un petit... c'est un petit restaurant, c'est plus un bouclard, c'est plus un espèce de boui-boui, comme tu dis, qui a une cuisine vite fait avec deux tables. Et il vient voir le patron, bah, de toute façon, il n'y a pas d'autres employés, il lui dit, Adonis, je te paye le double d'un repas si tu me permets d'utiliser ta cuisine pour que je me cuise moi-même mon repas. Mais je te paye tout. C'est-à-dire, non seulement je te paye le double, mais en plus, je te rembourse l'huile que je vais utiliser. J'aimerais que tu me donnes deux œufs, je te les rembourse. Genre, non seulement je te paye ce que j'utilise, mais en plus, je te paye le double de mon repas. Bon, le mec, il dit, bon, bah, j'avoue que j'ai jamais eu une demande comme ça. C'est une demande intéressante. Bah, allez, pourquoi pas. Et donc, le Rav Eliaou va dans la cuisine. Et il va commencer à faire toutes les péoulottes à Nidrashot. Il va prendre une poêle qu'il va mettre sur le feu. Et le mec, il regarde. Il dit, c'est la première fois qu'il y a un mec qui travaille dans ma cuisine, je vais regarder quand même. Et il le voit cuire sa poêle sans rien dedans. Il dit, c'est très très bizarre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'abord, il l'a nettoyée. J'ai dit, mais elle était propre. Il l'a renettoyée, il l'a bien frottée. Ensuite, il l'a mis sur le feu, il n'y avait rien dedans. Vous comprenez qu'il était en train de la cachériser. Bélibounkal. Et ensuite, il prend les œufs, il les ouvre et il les regarde sous toutes les coutures. Le mec, il comprend pas, mais qu'est-ce qu'il veut? Il regarde évidemment s'il n'y a pas de sang dedans. Et ensuite, il les met sur le feu et machin. Et ensuite, il va couper le pain. Et ensuite, il va... Et quand il va arriver au moment de Netilat Yadaim et qu'il fait Seu Yoderem Kodesh, et le patron, il voit qu'il y a tellement de kavana pour préparer une omelette. C'est une omelette, hein. Concrètement, on parle d'une omelette. Hein. Il dit, mais c'est incroyable. Et il lui demande, mais pourquoi vous faites tout ça? Il dit, mais parce que cette omelette, elle n'est pas seulement pour me recharger mes batteries, mais elle est là pour me faire prendre conscience que ma vie vient d'Akadosh Baruch Hu. À la suite de cette rencontre-là, eh bien, ce restaurant deviendra le premier d'une longue liste qui auront la Théouda de Kashrout à Tel Aviv. Faire descendre les kavanot, les intentions les plus élevées, Baolam Hazé. Et puis enfin arrive 1983. 1983, eh bien, il devient Rishon Letzion. Entre parenthèses, il succède donc au Rav Ovadia Yosef en tant que Rishon Letzion et il va battre en nombre de voix le Rav Ben Tzion Abba Shaul, qui deviendra plus tard Rishon Letzion. Donc, il bat le Rav Ben Tzion Abba Shaul. Quoi qu'il en soit, eh bien, il deviendra à ce moment-là Rishon Letzion aux côtés du Rav Avrum Shapira. Rav Avraham Elkana Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Arav, est le successeur de la Torah du Rav Kook. Ils vont être ensemble pendant 10 ans, Rabbanim Rashim d'Israël, de mémoire de Rabbanut Arashit. De mémoire de Rabbanut Arashit. Il n'y aura jamais eu une symbiose aussi grande entre le Rav Arashi à Ashkenazi et le Rav Arashi à Sfaradi qu'entre le Rav Eliaou et le Rav Shapira. Ils étaient non seulement en symbiose rabbinique, mais ils étaient des amis extrêmement forts. J'en veux pour preuve une simple évidence. Alors que le Rav Eliaou a grandi à Porat Yosef, alors qu'il vient des Chachmé, Sfarad, Chachmé, Bagdad, ce que tu veux, ses enfants, il les enverra étudier à la Yeshiva de Merkaz Arav. Parce que le Rav Eliaou disait de la Yeshiva de Merkaz Arav dans laquelle il donnait un cours yomi. Tous les jours, il donnait cours à la Yeshiva de Merkaz Arav pour une chaboura sélectionnée au préalable et un groupe d'études particulier. Il dira de la Yeshiva de Merkaz Arav que c'est la Yeshiva dans laquelle il y a la Torah la plus authentique, la plus vraie, la plus chesed shel emet qu'il ait été donné de rencontrer. Alors, Mordechai Eliaou, il y a tellement de choses à dire. Kdushat Hayeladim. Pour lui, Hayeladim, l'avenir d'Israël, c'est la chose la plus importante qui soit. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque Amisraël va revenir à Hebron, après 1967, il n'est pas encore grand rabbin d'Israël. Il est grand rabbin, enfin, il n'est pas grand rabbin, il est déjà rabbin au Beddin à Gadol à Jérusalem, il n'est pas encore grand rabbin d'Israël. il va être un des premiers à venir une fois que la guerre est terminée. Il vient à Mearat Amarpella. Et à ce moment-là, il rencontre un des Shechim, un des Sheikhs de Hebron. Il y a encore plein de soldats qui sont là-bas. Et il dit, le Sheikh, il lui parle en arabe, et il lui dit, c'est un scandale, regarde-moi ça. Il rentre dans le tombeau d'Abraham, d'Ibrahim, avec des chaussures toutes sales. Ils n'ont pas honte. Le Rav Eliyahu lui dit, tu vois, c'est toute la différence entre nous et toi. Il dit, comment ? Il n'y a pas de respect à avoir ? Il dit, va dai qu'il y a un respect à avoir. Bien sûr que tu as raison. Mais la différence, c'est que toi, quand tu rentres dans la maison d'Abraham, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu es un invité. Un invité, il se doit d'être sur son 31. Il se doit d'être pile poil. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et un enfant, il a été joué dans la boue et il va quand même rentrer dans le palais du roi pour faire un bisou à son papa le roi. Et le roi, il ne s'énerve pas contre lui parce que c'est son fils. Anachnu yalde Hashem. Mais au-delà de Am Israël qui est yalde Hashem, il voyait vraiment dans les enfants d'Israël Kdusha Eliona, une sainteté incroyable. Racontera pendant des années celui qui va, je sais pas, il va avoir toutes les, il va faire tous les postes, hein. Celui qui va être le vice-premier ministre, le président de l'État. Vous avez compris que je parle de Shimon Peres. Il racontera toujours le retard qu'a eu le Rav Eliyahu à une bricha très importante qu'ils avaient tous les deux. Pourquoi il était en retard, le Rav Eliyahu? Parce qu'au moment où il descend, il sort de l'ascenseur de la Rabbanout Arachit pour prendre la voiture et aller à la Bgisha avec Shimon Peres, se tient devant lui une classe de CP qui est à sa Messiba de Chumash. Messiba de Chumash, ils vont recevoir leur premier Chumash et tout. Maintenant, la classe, elle devait arriver une demi-heure plus tôt, mais il y a eu un problème à l'école, machin, ils ont été en retard et ils sont arrivés seulement maintenant. Et cette phrase bien connue, Asgan yechake. Ayeladim lo yechaku. Il dit, le vice-président, premier ministre que tu veux, lui, il peut attendre. Les enfants d'Israël, ils n'attendent pas. Et on se rappellera évidemment de sa visite dans une de la grande synagogue de la Congregation du Massachusetts. Lorsque le Rav Eliyahu va être en visite, eh bien, il arrive dans la synagogue, mamash, la synagogue, un bijou de beauté. Et en plein milieu de la dracha de RF Shabbat, Rav, il regarde tout le monde et il dit, Khashoukh po! Khashoukh! Il commence à Khashoukh. Mais on a mis les lumières à fond, qu'est-ce qui se passe? Non! Yesh Khosher po! Loroim Kloum! Et les gens commencent à parler, se demandent, mais qu'est-ce qu'il a, le Rav? Si bien que tu vois pas que le président de la congregation, il est ophtalmo. Alors il vient voir le Rav et lui dit, Kvod Rav, je me permets, je suis le grand docteur blablabla, blablabloum, et peut-être que vous avez un problème aux yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière ici. Il dit, mais de quoi tu parles? Il n'y a pas un seul enfant dans la synagogue. Il dit, ben oui, mais parce qu'ils font plein de bruit, les enfants, on ne peut pas se concentrer. Il dit, une synagogue sans enfants dans la synagogue, c'est Rocher Gamour. Le lendemain matin, toute la synagogue a été pleine d'enfants. Et effectivement, on n'entendait rien à la tfila, mais c'est l'homme échané. Une synagogue sans enfants, c'est la mort de la synagogue. Kipshuto. Kdushat Ayeladim. Mais si on parle de Kdusha, de Yeladim, d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas ne pas parler de la dévotion incroyable qu'avait le Rav Mordechai Eliyahu pour les Chayale Israël. Chayale Tzahal. Pa, laisse tomber. Chayale Tzahal, mais tu te rends pas compte. Chayale Tzahal. Il y a, lorsqu'il était grand rabbin d'Israël, il va aller rencontrer évidemment plein de mosdot. Un jour, il va aller dans un Bet Sefer, un Yeshiva Tichonit, à Petar Tikva. Et il raconte une histoire à Petar Tikva. Il dit, je vais vous raconter maintenant, les enfants, quelle est la grandeur de Chayale Israël. Il dit, ah bon, c'est quoi la grandeur de Chayale Israël? Et il raconte que pendant Milchemet HaHatasha, donc la guerre, la campagne du Sinaï, comme on dit en français, eh bien, Il y a un jour, vers 22 heures, il y a un soldat qui l'a appelé d'une base dans le Sinaï. En fait, c'était la responsable en chef des communications qui a appelé le Rav Eliaou. Il dit, voilà, Kvod Harav, j'ai un soldat qui demande à vous parler de toute urgence. Il dit, il faut savoir que dans le Sinaï, on a beaucoup de problèmes de connexion, donc on n'a qu'une demi-heure par jour où on est connecté avec le reste du pays. Donc voilà, mon soldat, il dit que c'est une question de vie ou de mort. On dit, bah, très bien, alors passez-le moi. Et le soldat, il dit, Kvod Harav, comme on est très éloigné de tout le monde, notre approvisionnement en eau, elle est extrêmement limitée. Donc je voulais savoir qu'est-ce que je devais faire au niveau de Netilat Yadayim. Est-ce que je dois faire à chaque fois que je vais aux toilettes, ou est-ce que je ne peux faire qu'une seule fois? Est-ce que je dois manger mon sandwich dans une serviette? Et la responsable des communications, elle pète un câble. Elle dit, mais c'est pour ça que tu vas me prendre de laver les mains? Et le Rav Eliaou dit, mais vous ne comprenez pas. Amfakedet, vous ne comprenez pas. On parle en code. Vous ne comprenez pas, mais on parle en code. C'est pour la réussite de la guerre. Vous ne comprenez pas, c'est des codes. Il dit, ah bon? Oui, oui, c'est des codes. C'est des codes très, très importants. Alors, il lui dit, bah alors, voilà ce que tu vas faire. C'est que quand le matin, tu fais une tilat yadayim, tu es matné, tu fais un tnaï que c'est une tilat yadayim pour toute l'année, pour toute la journée. Et si tu as besoin d'aller aux toilettes, eh ben, tu te laves avec du sable. Et, shachem ishmor alecha. Et le chayel dit, non, mais je veux être sûr. Je cherche pas des coulottes. Je veux être sûr. Et le Rav Mordechai Eliaou, il sort le téléphone comme ça et il parle à Dieu. Il dit, regarde, regarde tes enfants. Regarde Kdoshe Chayale Israël, à quel point ils sont prêts de Messirut Nefesh pour toi. Nous, à ce moment-là, il a raccroché. Le Menahel de l'école de Petar Tikva, il dit, Arav, est-ce que je peux raconter la suite de l'histoire? Il dit, comment ça la suite de l'histoire? Quelle suite de l'histoire? Ben, le Khayal, c'était moi. Et à la suite de l'histoire, on a raccroché et on a été bombardé par les Égyptiens. On a été bombardé, mais de partout, laisse tomber. Une pluie de bombardements qui a duré pendant 7 minutes. C'était les 7 minutes les plus longues de ma vie. Tout le monde était caché. Mais moi, de là où j'étais, je pouvais voir la cour, l'intérieur de notre base. Et je vous ai vu. Il dit, comment ça, tu m'as vu? Il dit, bah oui. À chaque fois qu'il y avait un obus qui venait, il y avait votre silhouette qui était là, qui pointait le doigt vers l'obus et qui le dégageait à un autre endroit. Et il n'y a pas un obus qui est venu directement sur nous. Ils sont tous tombés à côté. Il dit, Vatama amin le macheraïta. Il dit, et quoi? Et tu crois à ce que tu as vu? Et là, le Menahel, il dit, Vatama amin, que tu as choisi ma yeshiva tichonite par hasard pour raconter cette histoire. Et ils ont ri, ils ont souri tous les deux, et les élèves n'ont rien compris, évidemment. Mais c'est qui, à votre avis, le soldat d'Israël qui était pour le Rav Eliaou un des plus grands héros de son temps? Il l'a très souvent appelé d'ailleurs Yosef HaTzadik Shel Dorenu. Eh bien, vous savez très bien de qui on parle, Yonatan Pollard. Combien de fois le Rav Eliaou, passez combien de fois, à chaque fois qu'il est venu aux États-Unis, il a reçu un ishour particulier pour venir rendre visite à Yonatan Pollard. Yonatan, d'ailleurs, le considérait comme son Rav. Et le Rav Eliaou le considérait comme son fils. Et à chaque fois qu'il venait, il ne parlait pas de la pluie et du beau temps, il demandait à Yonatan Pollard quelles étaient ses recommandations pour l'économie israélienne, pour la sécurité, pour plein de sujets. Il dit, tu as donné ta vie pour Israël, tu dois avoir un avis sur comment est-ce que cette vie-là, eh ben nous, on peut l'utiliser à bon escient. Il lui a promis qu'il sortirait de cette prison américaine. Et la dernière fois qu'il est venu le voir, non seulement il lui a dit qu'il ferait tout pour, mais la dernière fois qu'il est venu le voir, il lui a dit, je te promets que tu sortiras. Peut-être que moi, je ne le verrai pas, mais tu sortiras d'ici. Et on est terriblement heureux d'être les témoins de cette réalisation. Rabotai, qu'est-ce qu'il pourrait encore avoir à dire sur le chemin emprunté par le Rav Mordechai Eliaou? D'abord, il avait compris que plus que tout, il fallait respecter l'autre, mais réunir tout le monde. Il n'a à aucun moment cherché, comme son prédécesseur d'ailleurs l'avait fait, le Rav Ovadia Yosef, lui, avait cherché à réunir tous les Sfaradim sous une seule halakha, le Rav Eliaou n'a jamais essayé de dire ça, c'est la halakha pour tous les. Et certainement pas pour tout le monde, y compris les Ashkenazim. Et c'est pour ça qu'il décidera que ses commentaires sur la halakha, son Shulchan Aruch à lui, eh bien, ses annotations seront mises sur le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Ganzfried. Tout le monde lui a posé la question. Mais pourquoi est-ce que tu fais tes harot sur le Kitzur Shulchan Aruch, sur un Shulchan Aruch Ashkenaz? Pourquoi pas Kitzur Mekor Chaim Hashalem? Pourquoi pas Chaye Adam? Ça manque pas des Kitzur Shulchan Aruch écrits par des Sfaradim. Dis non. Le Rav Shlomo Ganzfried, c'est le Kitzur Shulchan Aruch le plus accepté dans le monde Ashkenaz. C'est lui qui est le plus étudié. C'est sur ce livre-là que je veux donner mes annotations pour les Bnei Sfarad. Comme ça, on peut être tous dans la même bibliothèque. C'est l'inverse qui s'est passé quand Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch et que l'Ashkenaz, le Réma, a écrit ses annotations sur le Shulchan Aruch. Donc la boucle est bouclée, si vous voulez, grâce à cela. Rav Mordechai Eliaou ne va pas mâcher ses mots lorsqu'il s'agira de faire des combats qui lui tiennent à cœur. Il a mené un combat toute sa vie contre le mouvement réformé. Il y voyait une véritable sakana, un véritable danger au niveau de l'assimilation. Et il y aura cette fameuse histoire bien connue et qui nous fait sourire, nous les Français, qu'un jour il était en visite en France, et à ce moment-là, c'était l'heure de Mincha. Il a demandé au chauffeur de la Shayara de les arrêter dans la première synagogue qu'il trouvait. Ils étaient 8. Les membres de l'équipe du Rav Eliaou, ils étaient 8. Il fallait encore 2. Et ils sont arrivés devant la grande synagogue de Copernic. Synagogue libérale. Mais le chauffeur, il ne savait pas. Il a dit une synagogue, il a pris la première synagogue dans le quartier. Et donc on a dit au Rav Eliaou que c'était une synagogue libérale. Alors il a dit, bon, très bien. Sortent de la synagogue à ce moment-là deux personnes. Le Rav de la synagogue et le Ménaké. Il dit, ah bon, bah, c'est très bien, il nous en manque encore un. Il dit, comment ça, il nous en manque encore un? Et le Rav de la synagogue, il vient voir le Rav Eliaou, il dit, pourquoi il vous en manque encore un? Il dit, bah, parce que on peut pas te compter dans le minyan, puisque tu es libéral. Il dit, bah, je suis d'accord, mais à ce moment-là, il vous en manque deux. Parce que mon Ménaké, le mec qui nettoie, il est aussi libéral. Alors, il vous en manque deux. Il dit, non! Le Ménaké, il fait ça pour l'argent, pour la Parnassa, c'est tout. C'est Beseder. Et là, le rabbin lui dit, et moi aussi, je fais ça juste pour l'argent. Non. Bekitsour, lâche pas du Rav Eliaou, elle est partout. Elle est partout, évidemment qu'elle est Béret Israël. Dis-moi, vous avez déjà été à cet endroit-là, tu sais, un endroit... Bon, on ne connaît plus très bien son utilité aujourd'hui, mais c'est un endroit, un grand terrain comme ça au centre d'Israël, où il y a des grandes pistes comme ça de bitume bien lisses, et puis il y a des boîtes de métal avec des ailes qui montent dans le ciel. Vous savez, le... Ah, l'aéroport. Ouais, l'aéroport international de Ben Gurion. Ouais. Alors, vous avez déjà été là-bas? Vous avez déjà été prié dans la synagogue de l'aéroport? Mais d'où ça vient qu'il y a une synagogue à l'aéroport? À Rav Eliaou. Lorsque le Rav Eliaou, il va faire la visite pour l'inauguration du nouveau terminal 1 de l'aéroport de Ben-Gurion, eh bien, on lui fait tout le truc, machin, et il pose plein de questions. Il veut savoir comment ça marche, l'aéroport, la tour de contrôle, machin. Et à un moment donné, le Menahel de l'aéroport, il lui dit, « Rav, j'ai quand même une question à vous poser en tant que grand rabbin d'Israël. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Pourquoi est-ce qu'on doit se fier et obéir à ce que les rabbins ils nous disent de faire dans la halakha ?» Je veux dire, on peut leur poser la question, et puis après, on se fait notre avis. On n'est pas obligé de les écouter. Alors, il lui répond, « Ben, tu sais, les rabbins, ils ont une connaissance du terrain de la halakha qui est un petit peu plus grande que celui qui n'est versé là-dedans. » Et ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il lui répond, « Ouais, mais quand même. » Il dit, « Ben, tu verras plus tard. » Et à un moment donné de la visite, ils arrivent dans la tour de contrôle. Dans la tour de contrôle, il dit, « Comment ça marche ?» Ben, voilà, les mecs là, machin, ils disent aux avions où est-ce qu'ils peuvent atterrir. Et le Rav Eliaou, il regarde le Menahel, le directeur de l'aéroport, il dit, et un avion, il est obligé d'écouter ce que la tour de contrôle, elle dit? Il dit, bah oui. Il dit, bah, il peut pas écouter et puis après faire ce qu'il veut. Il dit, mais pas du tout, c'est super dangereux. Et puis, mais pourquoi? Eh bien, parce que le mec de la tour de contrôle, il a une vision plus élevée et il voit mieux. Il dit, nous, bah écoute un petit peu ce que ta bouche dit comme parole. Et donc, juste après, il a imposé qu'on mette une synagogue à l'intérieur de l'aéroport. Il va également mettre en place Tfilat Atayas. Le Rav Eliyahu va écrire une tfila pour les pilotes de El Al, sur la demande des pilotes de El Al. Il va également faire une tfila des Chayalim. La tfila, les Shlom Chayalim, elle existait déjà avant le Rav Eliyahu. Mais il écrit un autre noussar qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus long, pour montrer à quel point, et c'est ce qu'il disait, pour lui, la tfila des Chayalim doit être la plus longue de la journée. Parce qu'on doit tellement, tellement, tellement prier pour qu'ils réussissent. Tfilat HaChayalim, Tfilat HaTayassim, Bet Knesset et d'innombrables autres influences du Rav Eliyahu Ba'aretz. Mais le Rav Eliyahu, c'était également le Kiddush Hashem ultime Ba'olam. Il a été un Kiddush Hashem tellement fort dans le monde entier. Vous savez, en tant que grand rabbin d'Israël, eh bien, il a dû se balader dans plein de pays. Dans tous les pays où il a été en visite officielle, il a créé des sueurs froides à tout le staff pour amener finalement un Kiddush Hashem énorme. Première visite en Russie. Il est reçu par Vladimir Poutine. C'est pas le mec le plus coulant de l'histoire, Vladimir. Ils vont être reçus par Vladimir. Alors, je sais pas si c'était au Kremlin ou je sais pas, mais une salle magnifico. Des chaises, mais laisse tomber, mais d'un cuir fantastique, d'un ripoud extraordinaire, d'un rembourrage génial. Le tsar a dû s'asseoir sur cette chaise. Le Rav Eliyahu était avec la délégation de tous les rabbins de Russie, la fédération des rabbins de Russie. Il a donné l'ordre à tous les rabbins de ne pas s'asseoir. Quand les Russes ont vu ça, ils ont dit « Mais pourquoi ?» Il dit, on ne s'asseyra que lorsque vous aurez changé toutes les chaises par des chaises en plastique. Il dit, mais pourquoi ? Comme ça, c'est comme ça. J'ai dit chaises en plastique. Grand rabbin d'Israël, sinon je m'en vais. Bon, ben ils ont été chercher les chaises en plastique. Pendant qu'ils ont été chercher les chaises en plastique, les rabbins russes, ils lui ont demandé en hébreu, Aval lama. Il dit, ben parce que tous les guéonés Ashkenaz Verussia, de toutes les générations, ils ont toujours écrit dans leurs écrits qu'ils ne s'asseyaient jamais dans les fauteuils rembourrés en Russie. Parce que la tradition là-bas, c'est que les fauteuils étaient faits de lin et de laine. De Issour Chatnez, chez Assour Be'ana. Et donc tous les grands maîtres de la Torah de Russie, dans toutes les générations, les chassidim et tout ça, même quand ils avaient les moyens, ne voyageaient pas en première classe dans le train, mais voyageaient en troisième classe pour être sur des sièges en bois et pas risquer de s'asseoir là-dessus. Quand ils ont amené les chaises en plastique, Vladimir est arrivé. Il a demandé, mais pourquoi vous avez demandé les chaises en plastique ? Et le Rav Eliyahu a dit, je peux vous poser la question de quoi sont faits vos magnifiques chaises ? Il dit, bah, de lin et de laine, comme la tradition le veut. Et il lui a expliqué le Issour Chatnez. Vladimir Poutine a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui, face à lui, était capable de rester fier face à ses croyances. Kiddush Hashem Gadol. Et que dire de sa rencontre avec le président brésilien ? Il a une grande discussion avec le président brésilien. Et il lui offre, le Rav Eliyahu va offrir au président du Brésil un Tanakh. Sefer HaSfarim. Il est chrétien. Seulement, il s'en fiche un peu. Et pendant toute la discussion, il joue avec des billes, des grosses billes comme ça en métal, qu'il pose sur le Tanakh. Le Rav Eliyahu, il dit à son traducteur, il dit, dites au président d'enlever les billes du Tanakh. Il dit, mais non, mais ça se fait pas, on va pas lui dire ça. Vous lui dites d'enlever les billes du Tanakh. Et je sais pas si vous imaginez le ping-pong. Il lui parle en hébreu et l'autre, il veut pas traduire. Et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, non, mais tout va bien. Et à un moment donné, le président, il s'énerve. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Et le traducteur, il veut pas traduire. Le Rav Eliyahu se lève, il prend les deux billes et il les enlève du Tanakh. À ce moment-là, le président se lève, il va dans sa chambre, enfin dans la pièce d'à côté, quoi. Et il fait appeler le Rav Eliyahu. Ils se disent, oh, il va avoir une tacrite diplomatite. Et quand il sort de la chambre pour se remettre de ses émotions, il fait une accolade énorme au Rav Eliaou en disant, Slicha, Slicha. J'ai pas, je me rendais pas compte de l'importance et de la grandeur du Sefer HaTanakh. Slicha. Mais bon, si on parle de Sipurim, de Kiddush Hashem, on a quand même gardé la meilleure hein, pour la visite en France. Ah, la visite en France, ça, c'était autre chose. Ah, la visite en France, c'était un concept, je peux te le dire. Parce que quand il était dans l'avion pour arriver à Paris, c'était juste au moment, alors c'était sous le président Chirac, parce que c'était après qu'il soit grand rabbin d'Israël. Vous savez que le grand rabbin d'Israël, le Rishon Etzion, il est toujours considéré comme tel, même après son mandat. Et donc, voilà. Ça va être pendant la première Kehuna de Jacques Chirac. Donc on est en 97, quelque chose comme ça. Et le Rav Eliaou, dans l'avion, les membres du cabinet des affaires étrangères israéliennes lui disent « Tov, Arav, on connaît très bien vos positions par rapport à Eretz Israël et tout ça, machin. Mais vous savez aussi que la France, ils sont quand même plutôt pro-arabes. Donc, on vous demande, dans toutes les discussions que vous aurez en France, de rester rabbinique. Vous faites pas de politique, s'il vous plaît. T'inquiète pas! T'inquiète pas! Il arrive en France, visite officielle. On va l'amener au Louvre. Et au Louvre, on va l'amener devant l'énorme tableau que vous avez peut-être déjà vu de Louis XIV. Et il demande au guide, il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est Louis XIV. Louis XIV. Et lui dit, c'est qui? C'était le roi de France. Ah! Dites-moi, c'était un bon roi? Ça dépend. Non, pour son peuple, il était moral. Non, pas vraiment. Mais bon, quand même, c'était le roi de la France, très important. Et bon, d'accord. Ensuite, ils arrivent à Fontainebleau, au château de Fontainebleau. Et il y a là-bas la salle du trône de Napoléon. Ils disent, il y a le grand tableau de Napoléon, c'est qui? Napoléon. Ah, quelle misère, il y a Napoléon. Tout le monde dans le staff dit, mais attends, le Rav Eliaou nous fait des bouchottes. C'est pas qui c'est Napoléon? Il dit, c'était l'empereur des Français, machin. Et il y a la salle du trône avec le trône. C'est pas vraiment un trône, c'est le siège de Napoléon, là où il siégeait. Il dit, ah, il est beau ce siège, c'était à qui? Napoléon. C'était l'empereur, ouais, c'est ça, vous m'avez dit. Il était bien? Il était quelqu'un de bien, moralement? Pas vraiment, mais bon, écoutez, quand même, le roi des Français, l'empereur des Français. Il dit, très bien. Il me plaît beaucoup, ce fauteuil. Combien il coûte? Il dit, comment ça, combien il coûte? Mais c'est pas à vendre, enfin, c'est un trésor national, on peut pas le vendre. Ah, vous êtes sûr? Mais je peux payer, hein? Il dit, non. Et on coupe court à la visite. Le soir, il y a le grand dîner avec Monsieur Chirac et tous les représentants communautaires. Évidemment, le grand rabbin d'Israël, Rav Eliaou, est là. Et il va prendre la parole. Et il dit, dans ma visite aujourd'hui, on m'a amené au Louvre. Et on m'a montré les portraits des rois de France. J'ai fait semblant de ne pas savoir qui c'était. Le traducteur, qui traduit en français, commence à falsifier la traduction. Manque de bol, la rabbanite Tzvia Eliaou, la femme du Rav, parle français. Elle dit à son mari, il te mitonne, il ne dit pas ce que tu dis. Alors il se tourne vers le traducteur et lui dit, merci, je vais me passer de vos services. Et il se tourne vers le grand rabbin de France et lui dit, c'est toi qui vas traduire. Ok. Donc, pourquoi pas? Et à ce moment-là, ça continue. Et le Rav Citruc va commencer à traduire. Et il dit, et je suis arrivé devant la salle de Napoléon et j'ai demandé qui c'était. Et tout le monde avait peur que je refasse honte. Et j'ai demandé si c'était un mec bien. Et il m'a dit, non, c'est pas un mec bien, mais bon, quand même, c'est le trésor de France. Et il y avait sa chaise et j'ai demandé combien on peut l'acheter. Et on m'a dit, mais c'est pas à vendre, enfin, c'est le trésor national. Et là, il change de voix, il se tourne vers le président. Et il dit, vous voyez, vos rois d'il y a 300 ans, qui n'étaient pas forcément des gens bien, vous les respectez et vous n'êtes pas prêts à vendre leur héritage. Et vous voulez que nous, nous acceptions que vous, Français, vous vouliez manquer de respect à nos rois qui ont 3000 ans d'histoire et qui étaient les rois du tzedek et de la morale. Et vous voulez qu'on vous laisse vendre leur héritage, la terre d'Israël. Vous n'avez pas honte. Le Rav Eliaou va recevoir la médaille du mérite de Jacques Chirac pour le discours le plus engagé, le plus plein de vérité qu'il n'ait jamais entendu. Bon, ça ne va pas empêcher M. Chirac d'avoir une politique extrêmement pro-arabe, mais sur le moment, Ayak Kiddush Hashem, Gadol, Meod, Meod. Rabotai, quel a été le dernier combat du Rav Eliaou? Le dernier combat du Rav Eliaou, c'est un combat qu'il a perdu. C'était le combat de la Hitnatkout. Le combat du démantèlement. La Hitnatkout à Gaza, le démantèlement de la bande de Gaza, il a été un des plus grands combattants pour que ça n'arrive pas. Finalement, ça a eu lieu. On le sait. Il a été extrêmement blessé. Pas au niveau de sa personne, mais pour lui, c'était un coup terrible dans le processus de la Géoula. Son fils raconte qu'il l'a très mal vécu pendant 3 ans. De 2005, 2006, 2007, 2008, il était cassé de la Hitnatkout. En 2009, sa femme raconte que tout a changé. En 2009, il va subir une première intervention médicale au cœur à l'hôpital de Shaaretz Tzedek. Toute la nuit, les médecins n'ont pas osé rentrer dans la chambre parce que le Rav Eliaou poussait des cris dans son sommeil. Le lendemain matin, il est tout calme, sa femme vient le voir. Il dit à sa femme, Zéo, tout est clair maintenant. Comment ça? J'ai compris l'histoire de la Hitnatkout, j'ai compris tout. Il dit, comment ça? Midat Adin, la rigueur est extrêmement tendue sur Am Israël. Et ce qui devait avoir lieu, c'était des xérotes terribles, terribles, qui devaient pendre au nez de notre peuple. Elle dit, je te dis, ce n'est pas un, deux, trois, c'est par dizaines de milliers que nos frères juifs auraient dû mourir. Une xérote terrible sur le peuple juif. Toute la nuit, je me suis battu avec Midat Adin. Et j'ai demandé qu'on enlève les xérotes. Toute la nuit, rien à voir. Ils ne voulaient rien entendre. Et je me suis pointé devant Akadosh Baruch Hu et j'ai dit, Ribono Shel Olam, toute ma vie, c'est Torah Vachesed. As yesh mashu shetzarich leshalem, as il faut payer pour rembourser Midat Adin. Moi, j'ai de quoi payer. Je suis prêt à payer le prix. Prends ce que tu as besoin. Mais enlève la xéra. La rabbinite Tzviya, elle a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il t'aurait été prête que des dizaines de milliers de nos frères meurent? Elle a dit non. Alors le Rav Eliaou, il a dit, Gamanilo. Yeshli bemal eshalem, azani meshalem. Et le Rav Eliaou dit à sa femme, le jour, la date du moment où Midat Adin viendra le prendre. Quelques un an et quelques plus tard. Sa femme le racontera qu'un an avant, il lui a dit, je sais, donc quand est-ce que ça, on m'a dit quel jour j'allais partir. Ahava le'am Israël. Ahava le'am Israël. Kiddush Hashem. C'était le Rav Mordechai Eliaou. Alors, je terminerai simplement avec une histoire, une dernière petite histoire, mais qui nous vient de son fils, le Rav Shmuel Eliyahu. Je vous l'ai déjà raconté, mais je la re-raconte, je m'en fiche. J'aurais voulu terminer sur mon histoire avec la veille de mon, enfin, le matin de mon mariage, mais je vous l'ai déjà raconté. Alors, la dernière histoire, c'est avec mon fils. On est parti avec mon fils sur une montagne bien connue à Jérusalem. C'était la première fois où il faisait un sioum de Mishnah. Et donc, on a été faire tous les deux notre sioum de Mishnah sur cette fameuse montagne que tout le monde connaît bien. On a été se tremper dans une source de Jérusalem avant et on est monté malé beitrakshut, costard cravate, et on est monté pour faire le premier sioum de Mishnah de mon fils, il avait alors 8 ans. Et on monte. Il trakshut meod meod gdola. Et quand on redescend, je prends mon vélo. Mon fils monte sur l'endroit passager du vélo. Et on repart vers la maison. On passe par Shar Tzion. Pour ceux qui connaissent, c'est une porte où il y a plein de pavés. Et donc, bah, mon vélo, il fait comme ça. La bouteille d'eau qui était dans la poche du sac du vélo tombe juste dans la porte de Shar Tzion. Donc, j'arrête, je dis à mon fils d'aller récupérer la bouteille d'eau. Et au moment où il prend la bouteille d'eau, il y a une voiture qui est en train d'essayer de sortir de Shar Tzion. Bon, c'est une manœuvre qu'il faut faire en 4 fois parce que sinon, tu te prends la porte. Mais donc, il y a une voiture et donc, il y a mon fils, il y a la voiture. Alors, il l'a pas touché, il était très loin de la voiture. Mais, b'chol zot, la voiture s'est arrêtée, la porte conducteur s'est ouverte, et il y a un monsieur qui est sorti de la porte, et à ce moment-là, mon fils, il a fait tomber sa bouteille, et il a bugué. Et le conducteur, il se rapproche et lui dit, « Makara lecha Hamoud, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mon petit. Et là, mon fils, il le regarde et il lui dit « Rachafti shatamet. Je croyais que t'étais mort. » Et le conducteur dit « Mais comment ça ?» Il dit « Ken, Abba Sheli, aussi perli est assis pourim chez l'eau. Aussi perli est assis pourim chez la Raveliaou. Vraiment, les Raveliaou mettent. » Parce que venait de sortir de la voiture le Rav Shmuel Eliyahu. Le fils. Mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Alors mon fils, il a cru que c'était le Rav Eliyahu. Et là, il a souri et il lui a dit, « Là, ton père, il t'a raconté les Sipurim du Rav Mordechai Eliyahu. Ani sachakol Shmuel. Moi, je ne suis que Shmuel. » Mon fils, il bug. Il dit, « D'accord. C'est Shmuel, mais tu as connu le Rav Eliyahu ? » Alors il lui met les mains sur la tête et il le bénit. Et la vérité, c'est que dans cette semaine, l'année dernière, où j'ai été avec le Rav Shmuel à Paris, c'est lui qui m'a rappelé l'histoire. Il m'a dit, tu sais, j'ai pas oublié cette histoire. C'est pour Gadol. Bekitso, à ce moment-là, il a dit à mon fils, il a dit, tu sais quelle est la différence entre Abba vers la Torah chez Abba, entre mon père et la Torah de mon père. Il dit, grâce au livre de mon père, j'ai appris comment est-ce qu'on fait la Torah, comment est-ce qu'on pratique la Torah. Mais grâce à mon père, j'ai appris comment on se rattachait à Dieu. Je peux t'assurer que mon fils, il n'a pas compris. Mais c'est Beseder Gamour. Arav Mordechai Eliyahu, Zekdusha Illa. Alors voilà, je voulais terminer ce cours qui est un peu plus long que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé beaucoup plus que d'habitude. Mais je voulais terminer parce que après la mort du Rav Eliyahu, sa femme a trouvé dans son manteau un pétek. Et ce pétek, il l'avait depuis qu'il est devenu Dayan à 31 ans. C'est un pétek tout vieux qu'il a gardé dans son manteau parce qu'en fait, c'est une tfila. Une tfila qu'il a mis en place, qu'il a écrit tout seul comme un grand. Et voilà. C'est une fila qu'il a mis en place lorsqu'il est devenu Dayan. Et cette tfila, c'est tfila tarav, la tfila du rabbin. Je vous la fais écouter, elle a été mise en chanson. Ribono shel olam, maître du monde. Tu sais très bien que c'est pas moi qui ai demandé de servir ton peuple, de leur rendre la justice. Je sais que je ne suis rien du tout. J'ai pas demandé de réaliser des miracles. Et mes maîtres m'ont demandé de prendre cette place, alors je l'ai prise. Mais je suis tout à fait conscient du danger qui plane sur moi. Alors Ribono shel Olam, s'il te plaît, aide-moi. Je ne compte que sur toi. Qui attache au mea tefila. Dans la tefila, il demande que Dieu lui donne la clairvoyance de ne pas dire là où c'est tamé tahor et là où c'est tahor tamé, de ne pas dire là où c'est kasher pasoul, de là où c'est pasoul kasher. De lui donner la clairvoyance de juger l'âme Israël avec bienveillance. C'est de ça qu'on parle. Celui qui a peut-être été le plus grand des plus grands, qui se voyait comme étant le plus petit parmi les plus petits. Rachem alai veten lilev shomea. Le Rav Shmuel Eliyahu nous a dit, quand on était à Paris, que le secret de son père, c'était de savoir et de comprendre très profondément que lorsque un juif se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, ça me rapproche moi aussi d'Akadosh Baruch Hu, même si je ne le connais pas. Et si un juif s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu avec toute ma barbe. Et c'est pour ça que nous avons cette responsabilité les uns envers les autres. C'était les paroles du grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, celui qui aura été Aviem chez Yaldei Israël. Le papa des enfants d'Israël, c'est nous. Chazak ou Baruch, et à bientôt les amis.
Incroyable.
Ouais, j'étais un peu chaud là ce soir.